When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Noël,
très bonne, très très bon. Sérieux, c'est ça goûte le cocktail sans alcool.
C'est fucking triste le suçon, hein.
C'est
épicé, mais c'est bizarre sucer ça.
Épicé et sucré ou juste épicé, hein? C'est quoi le...
C'est les deux, man.
Ah ouais.
Je sais pas comment décrire.
La poudre est bizarre.
Ouais. Oui,
c'est un beau mélange avec les cocktails exotiques qui se met là.
Mais non, sérieusement, les deux ensemble fait super bien.
Ah ouais? Yeah. T'es rendu là?
Ah, man, tout. Hey, ça, c'est bon.
Ça vient l'équilibrer. Ah oh, oui, c'est bon.
Sérieusement, ça va chercher ça. Ça restera pas longtemps dans les tablettes,
non,
ça le garantit.
Ça restera pas longtemps, évidemment.
Il y en a un autre aussi à cerise, hein, puis ça vaut la peine. Ouais. Probablement parce qu'au goût que ça a, sérieusement, c'est magique. Et là, il nous reste une dernière chose. Hey, le sous-son taqué, essayez-le, man, pour vrai. C'est 3,99, là, c'est une belle découverte. Genre de si tu surprendre les gens, tes enfants.
Surtout les enfants.
Mais si t'aimes les taquis, pour vrai, ça goûte ça.
Ça goûte
vraiment le taqui.
Je sais pas le sous-son que c'était, là, mais.
C'est sucré, ça, c'est spécial.
C'est
man.
Ça, là. Hein? C'est ça qui est le. Il y avait le côté sucré là-dedans. Que t'avais avec le.
Bah, lui, notre côté sucré, c'était le 7-Up.
Et là, rapidement, on va finir avec ça, parce qu'il y a beaucoup de Skittles qui ont été reçus chez Snacktown.
Ouais.
De toutes sortes, de toutes grosseurs. Il y en a même sans coquille. Il y en a. Ouais, c'est ça, hein, c'est des Skittles.
Ouais, des gros aussi, là. Ouais, des gros.
Des gros Skittles.
Non, des fucking
wow.
Gros.
Ça
a l'air bien.
Et
cool.
Ça, c'est alors à la pêche.
Allez, hey, c'est
là,
fou,
j'ai deux, trois sortes, là. Je sais pas quel que t'as.
Ben, ici, ça serait. Christophe. C'est en mandarin.
Mais il me semble que ça.
Ouais, fruit de la passion, pêche, orange.
Skittles, ça vient d'un ancien jeu européen. Hein, d'où, se sont inspirés le bowling de ce jeu-là, le jeu du Skittles. Puis les bonbons se sont inspirés de ce jeu-là.
C'est pas mal, genre, on dirait, comme le 7-Up, on dirait que c'est cocktail exotique. Il y a des Skittles.
Oh, wow. C'est bon.
Les Skittles, c'est comme les chips, hein. Faut que t'en prennes une grosse poignée.
Non, c'est
ça. Même s'ils n'ont pas tous le même goût. Hein.
C'est pas grave, ça se marie tellement bien.
Ah, c'est ce que j'ai fait.
C'est ça.
Voilà. Wow. Oh, mais c'est bon.
Oh, c'est mon bon. Dieu. Ah.
Allez, j'ai eu le goût d'aller essayer toutes les autres. Surtout ceux sans coquille, ça jette intrigué.
Oui.
Il y a pas. Puis on a même des jujubes Skittles.
Oui, c'est ça. Ah, okay. Ah non, sérieusement, va faire ton tour là. S'il y a vraiment, vraiment, vraiment du beau stock chez Snacktown. Hey, on s'attarde pas plus longtemps.
Non, on a déjà défoncé.
On remercie, ben, la bulle immobilière qui nous a
permis de défoncer. Un gros merci, Eric.
Merci énormément. Hey, on va faire un retour chez Snacktown. Demain, c'est la bingo chez Snacktown. On va faire ça.
Ah ouais, par là.
Passer le bingo. Yeah. Oh, merci tout le monde. Merci Alexandre Bella. Merci Théo. Merci John Gray.
Merci John.
Merci
John.
Merci tout le monde.
Palma de mi alma, qué linda eres tú, el sauce y la palma se mecen con calma.
Hey, samedi, tu viendras au pique-nique à l'école de musique Jésus-Marie?
Bah, je vais même pas à l'école de musique.
Ben, c'est pas grave! C'est pour tout le monde! Il paraît qu'il va même y avoir des musiciens live, de la danse trad, puis tout le kit!
OK, c'est quand?
Samedi prochain à 2h, puis c'est gratis!
Ah ben, pourquoi pas? Hey, où l'école de musique?
Tu sais, là, grand-maman appelle ça le couvent de Lauzon. Juste en bas de Monseigneur Bourget.
Tous les détails sur emjm.org.
Tu connais pas encore le bingo de CJMD? Ben, il serait temps.
3000 piastres et plusieurs prix de participation.
Une animation incroyable, mais aussi Patty.
The sexiest man on earth.
$11.75 la carte.
Et nous sommes dans les meilleurs campings.
Rate pas ta chance et visite le 969fm.ca.
Section bingo pour les détails. Tout le monde sait que lorsqu'il est question de parler d'immobilier, ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la Bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La Bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18 heures. À CJMD 96.9, L'Alternative Radio.
CJMD 96.9.
969FM.ca.
La Bulle immobilière. La Bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin. Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La Bulle immobilière.
Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, La Bulle immobilière. Quand même malade, hein? Hey, ça fitait avec le son, c'est vraiment cool. Écoute, Kevin, une de nos dernières histoires d'amour qui se termine aujourd'hui, je te remercie pour toutes les années pour lesquelles tu as été mon premier fidèle auditeur avec ma sœur, puis d'avoir été co-animateur pendant toutes ces saisons-là. Un grand big love, merci beaucoup.
Merci à toi, Jeff. Écoute, ça a vraiment été trippant. Super belle expérience, puis écoute, je sais pas quoi dire d'autre que te remercier. Honnêtement, on a tellement vécu des beaux moments, tellement des belles rencontres, fait que je suis vraiment content de passer le flambeau.
Puis les rencontres sont le fun aussi. On a eu l'opportunité de rencontrer Jean-Yves puis Francis du groupe Influence Immobilier. On est allé pour notre première fois faire une sortie à l'extérieur pour faire un podcast.
Sortie scolaire.
Exact. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis écoute, la Bulle immobilière, on a au-dessus de 200 podcasts. On est écouté par plusieurs. Puis on se rend compte de plus en plus à toutes les fois qu'on fait des événements qui font comme « Wow, c'est vraiment hot, votre émission continue. » On a des gens qui nous écoutent sur le 2X, sur le 3X. Salut, Alex. On sait que c'est toi qui fais ça. Mais pour vrai, là, on a que des bombes comme invité. Puis aujourd'hui, on reçoit Geneviève Côté, avocate en droit immobilier pour Bouchard Avocat. Bonjour Geneviève, comment ça va?
Ben, ça va bien et toi?
Ça va super bien. Écoute, merci de te prêter au jeu avec nous puis de venir parler de droit immobilier. Puis tu sais, on a parlé de garantie légale, puis à un moment donné, ça devient un peu tannant. Tu sais, la garantie légale de qualité, puis là, sans risque au péril des acheteurs, puis de quelle façon qu'on va travailler avec tout ça. Puis qu'est-ce que j'aimais, c'est en pré-entrevue, on en parlait, puis on a comme fait, on a déjà parlé, puis juste finalement, hors d'onde, mais on a sorti 3-4 subtilité qui a fait en sorte que on veut en savoir plus puis d'être pointu sur ces éléments-là parce que c'est vraiment important. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours de Bouchard Avocat. C'est quoi l'histoire? Est-ce que tu étudies ici à Laval?
Oui, j'ai étudié à l'Université Laval. J'ai fait mon bac en 4 ans. Pourquoi je suis devenue avocate? En fait, là, c'est hyper simple. J'ai eu la piqûre très jeune. Ma tante était adjointe juridique depuis maintes et maintes années dans un quand même gros cabinet là, qui est maintenant fusionné avec un autre. Elle m'a amenée travailler avec elle quand j'étais... Je devais avoir à peu près là, 10 ans. Et j'ai tellement trouvé ça beau, le bureau. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres. Et moi, je suis une fan de livres. J'ai toujours beaucoup lu. J'ai dit, mon doux, je veux travailler dans un bureau.
De
où
livres.
Est-ce qu'il y a plein de livres comme ça? Je veux lire à longueur de journée. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. le bac aussi, là, c'est beaucoup de lecture. Mais sinon, mon parcours, il y a peu de nuances particulières. Là. Je veux dire, moi, pendant mes études, j'ai travaillé, mais j'ai travaillé comme serveuse dans des restaurants. Donc, je n'ai pas fait rien de phénoménal versus quelqu'un d'autre.
Puis, tu es une fille de la Rive-Sud?
Absolument. J'ai toujours été sur la Rive-Sud, là, originaire de Saint-Apollinaire. Et là, maintenant, là, depuis les 15 dernières années, je suis de Lévis.
Ah, c'est vraiment cool. On aime ça, les Southsiders. On a beaucoup.
Il a ton superpower.
Ouais, c'est ça.
Puis, Bouchard Avocat, c'est quand même une grosse firme. On connaît Stéphane Pagé pour l'avoir déjà reçu ici à la Bulle Immobilière, pour le rencontrer régulièrement dans des événements de courtier immobilier. C'est un pro sur la défense des courtiers immobiliers, puis d'avoir un professionnel dans une transaction, puis de limiter les problématiques avec des gens qui veulent vendre sans courtier immobilier. Souvent, on va parler sans commission, mais ça augmente terriblement les risques, la façon de travailler, etc. Fait que, tu sais, c'est un bureau qui est bien implanté. Stéphane, il est très actif dans le droit immobilier puis de faire rayonner le cabinet.
Absolument.
Mais l'histoire de Bouchard...
Oui, en fait, Bouchard plus avocat, avant c'était Bouchard Pagé Tremblay, ça a été créé à la fin des années 80 par deux frères qui sont les frères Bouchard et ça a grossi d'année en année et le changement de dénomination sociale a eu lieu en 2019. Pour uniquement, là, il y a eu une espèce de mode pour les cabinets d'avocats de rapetisser le nom. Bouchard Pagé Tremblay, c'était peut-être un peu long à énoncer. Donc là, on est rendu Bouchard Avocat, Bouchard plus Avocat. Donc voilà. Puis, à l'heure où on se parle, il y a un des fondateurs du bureau qui est juge à la Cour supérieure du Québec. Puis on est environ, là, je dirais, entre 15 et 20 avocats. Là. D'ailleurs, il y a des nouveaux membres qui vont se joindre à nous, mais on est un cabinet, je dirais, moyen. Là. Puis oui, c'est un très bon point. Stéphane et moi, on s'implique beaucoup auprès des courtiers immobiliers. D'ailleurs, Stéphane, une des premières conférences qu'il a propulsée dans le domaine, c'est la conférence « Avec un courtier, c'est payant ». On est d'avis qu'il n'y a que des avantages à faire affaire avec un courtier. Puis nos dossiers d'horreur, on ne se le cachera pas. Moi et Stéphane, on le sait, c'est des dossiers du proprio. Puis c'est correct, là, on ne veut pas interdire ça. Les gens, ils font leur choix. Sauf que, clairement, avec un courtier, il n'y a que des avantages. Et on s'implique aussi auprès de l'OACQ pour donner de la formation aux courtiers. Parce que nous, on est d'avis que si on prévient... On est mieux prévenir que guérir, moi et Stéphane. Là. Même si ça va nous enlever des dossiers, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça qui est important. Nous, on veut prévenir les litiges. Puis c'est pour ça qu'on est aussi impliqués.
Puis vous êtes spécialisé dans le droit immobilier, dans le droit des affaires, je crois aussi.
Oui, exactement. Au bureau, en fait, on fait de tout, sauf du criminel et pénal. Donc, moi, Stéphane et Félix-Antoine Deroy, on est trois avocats qui font uniquement ou quasi uniquement de l'immobilier, alors que nos collègues font du droit de la famille, du droit des affaires, du droit des biens, en fait, les servitudes, bornage et tout. Alors, c'est un peu de tout ça, du litige civil général aussi.
Puis toi, c'est-tu un concours de circonstances qui t'a amené à pratiquer surtout en immobilier chez Bouchard? T'sais, dans le sens, t'es-tu arrivé puis t'as fini tout de suite ton parcours de commencer avec eux là-dedans ou
oui,
t'es arrivé un peu comme...
J'ai fait mon stage dans un gros cabinet de la région de Québec, puis je faisais beaucoup de droit du travail parce que ma maître de stage était c'était sa spécialisation, en fait, le droit du travail. Elle travaillait beaucoup là-dedans. Puis c'est un concours de circonstances, pardon, qui m'a amené chez Bouchard Avocat pour travailler avec Stéphane, mais j'ai tout de suite... tomber en amour avec le droit immobilier, ça me passionne, ça touche tout le monde. C'est ça qui est aussi intéressant. Ben oui. T'sais. Tout le monde doit se loger, tout le monde doit payer son hypothèque et tout. Puis d'ailleurs, anecdote cocasse que je raconte toujours à mes clients qui me disent « Vous pouvez pas comprendre, mais oui, je peux comprendre. Mes parents se sont fait poursuivre quand j'étais très jeune là, pour un dossier de vice caché. J'ai vu l'impact que ça a eu dans leur vie. Je l'ai vécu avec eux même si j'étais très jeune. Et donc, je sais très bien ce que mes clients vivent. Puis c'est quelque chose que j'aime les aider là-dedans, là, comme je l'ai déjà vécu personnellement. »
Puis en parlant, tu sais, justement, de problématiques de recours contre vice caché, c'est les éléments les plus importants, puis souvent c'est galvaudé, puis on parle de garantie légale de qualité, on parle de haut risque et péril de l'acheteur, on parle de sans aucune garantie. Fait que tu sais, ça devient un peu mêlant, puis tu sais, on parlait de nuances au niveau des différentes garanties, puis Kevin, tu sais, t'es un gars qui est quand même très allumé, t'es actif dans l'immobilier, puis tu me dis « Ah ouais, okay, mais je savais pas qu'il y avait autant de nuances à propos de la garantie. » Là.
Pour moi, c'était une garantie de laquelle on se dégageait. De qualité et au péril de l'acheteur, mais je pensais pas qu'il y avait toutes ces nuances-là puis tout ce que ça pouvait impliquer au niveau des titres. Puis,
Ben oui, parce que la garantie légale, ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a deux... La garantie légale, si on la met là, dans un graphique, elle est en haut, puis elle a deux sous-catégories, qui est la garantie légale de qualité et la garantie légale du droit de propriété. Et c'est deux choses complètement distinctes. Donc, si on exclut la garantie légale, par exemple, une clause qui serait rédigée sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, on exclut ces deux sous-catégories, qualité, droit de propriété. Si on rédige une clause qui est indiquée sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, ça veut dire qu'on a uniquement exclu la sous-catégorie qualité et il reste la sous-catégorie du droit de propriété qui est toujours garantie.
Puis tu sais, pour ramener ça, la garantie de qualité, on parle de garantie de vis caché, des composantes, etc. Puis la garantie des titres, ben tu sais, c'est la garantie pour s'assurer, ben la garantie légale, c'est pour s'assurer que tu es vraiment propriétaire, que les servitudes ont été déclarées, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de passer sur ton terrain, qui n'a pas été décrit, etc. Fait que on vient différencier ces deux éléments-là.
Oui, c'est ça. La garantie du droit de propriété, effectivement, c'est tous les titres, l'historique de recherche de titres que le notaire fait avant de notarier la transaction. Mais la garantie du droit de propriété inclut aussi la conformité du bâtiment, de l'immeuble, la maison, peu importe comment on l'appelle, au règlement et lois applicables. Donc, règlement de zonage, les règlements de la municipalité, la ville, peu importe où est-ce que le bâtiment est situé, et aussi les règlements provinciaux, là, par exemple, la loi sur la qualité de l'environnement. C'est pour ça, Kevin, tu disais, là, par exemple, un dossier de contamination de sol. Je donne un exemple, qu'il y a un réservoir de mazout qui a coulé sur le terrain il y a plusieurs dizaines d'années. On peut quand même aller chercher la responsabilité de notre vendeur quand la garantie de titre nous a été octroyée. On pourrait penser que c'est un vice caché, c'est le premier réflexe qu'on a, mais on peut aussi le traiter sous la garantie du droit de propriété, parce que c'est avoir un terrain contaminé, en fait, ça, c'est non conforme à la loi sur la qualité de l'environnement, on est en infraction. Et
puis cette nuance-là, puis cette subtilité-là, vient faire en sorte que la majeure partie des gens qui ont eu des réservoirs à l'huile vont dire, écoute, je vais me protéger, je vais mettre la clause de vente sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, mais non, tu as encore un risque de te faire poursuivre, puis on pense qu'on vient de protéger au maximum le client, puis la réalité, c'est non.
Donc là, ce qu'on comprend, c'est le de qualité. C'est exact. Lui qui vient comme...
Oui.
On dirait qu'on en met plus, mais en fait, on
en
met
moins. C'est ça. Exactement.
Puis en même temps, il faut faire attention aussi, parce que si tu enlèves la garantie des titres, puis la garantie de qualité, bien, ça fait en sorte que peut-être que ton prêteur ne voudra pas prêter, peut-être que, tu sais, on n'aura pas de créancier dans le dossier, là, parce que là, tu sais, on ne peut plus garantir rien. Fait que le notaire, lui, ça augmente sa responsabilité au niveau des recherches pour être sûr que l'immeuble est vraiment clair. Parce que sinon, tu sais, la représentation et la recherche ne vient pas nécessairement répondre.
Tu vois, ça, c'est une autre distinction. Moi, je pensais que, honnêtement, que c'était vraiment une responsabilité totale du notaire. Là. Je pensais pas que le fait de l'exclure, ça ajoutait une responsabilité au notaire. Là.
L'historique, oui. Oh, allez, je voulais
non, pas. Non, mais j'allais dire dans le sens du point de vue du financement, en fait, là, ou du banquier, là.
Le notaire, effectivement, c'est sa responsabilité de faire la recherche des titres. Par contre, tu sais, contamination de sol, je donne l'exemple de ça, je reviens, là. Ouais.
Il pourra jamais le voir.
Ouais, non, il pourra jamais le voir. Puis, c'est pas. Les institutions financières, c'est essentiellement en matière commerciale qui vont demander un test de sol parce que le commerce peut avoir eu, par exemple, plus de va-et-vient et tout ça. Ben, des commerces, par exemple, des stations essence désaffectées et tout ça. Mais, effectivement, on peut pas savoir là, quel test ou condition.
Là, mettons, prêteur, on parle d'environnement, mais un autre exemple, mettons que ce serait du zonage ou de l'usage, ça pourrait être, mettons, quelqu'un qui a, je dis n'importe quoi, tu me dirais, c'est correct, mais qui aurait un salon de coiffure annexé depuis des années qui vend. Exact. La personne rachète, voulait opérer un salon de coiffure, puis là, tout d'un coup, il y a un flag qui lève au niveau de la ville. Ça n'a jamais été conforme d'utiliser ça en commercial.
Très bon exemple. J'ai aussi beaucoup de dossiers où c'est des multilogements qui ont été vendus. Par exemple, moi, je te vends un triplex et on se rend compte, on reçoit un avis d'infraction de la ville 2 ans après avoir acheté, puis votre troisième... Oui, exact, c'est un duplex. Le troisième logement n'a jamais été approuvé.
Quoique taxé en triplex
oui,
depuis.
Oui, ça, c'est plate. Ça.
Mais c'est ça. Puis là, c'est le moment où ce qu'on dit que la main droite ne parle pas à main gauche à la municipalité, effectivement.
C'est ça qui est moche. T'sais. Mais oui, les utilisations, les commerces, c'est tout ça. Puis les plex, en fait, c'est l'exemple parfait. Là.
Puis on parle aussi de succession parce que des fois, on va penser qu'on va retirer la garantie sur une propriété. Puis là, on va dire, ben écoute, comme on a retiré la garantie, on est clair de nœud. Sauf que la succession peut être garante de l'immeuble qui a été vendu, même si la personne était vivante. Je donne un exemple. On a une population vieillissante de plus en plus. On a des bébés boomers qui s'en vont en location, etc., vont vendre leur propriété. Leur courtier, puis c'est des gens de 70, 80 ans. Puis même s'ils sont en top forme, ils ont habité longtemps la propriété, mais n'en demeure pas moins qu'ils ne veulent pas rester garants de la propriété non plus. Fait que là, tu sais, souvent, ils vont vendre la propriété avec garantie. Une des personnes meurt. Bien, on peut quand même poursuivre la succession pour une problématique que le monsieur a bricolée.
Oui, exactement. À partir du moment où le défunt a vendu sa maison avec garantie légale, que ce soit avant son décès, en fait, généralement, les successions, quand c'est au stade où la personne est décédée, c'est sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Mais quand la personne est toujours en vie, elle vend sa maison, s'en va en maison de retraite, par exemple, décède quelques années plus tard, et il avait vendu, c'est ça, avec garantie légale, mais sa succession, s'il y a une problématique, elle peut voir sa responsabilité engagée, à concurrence, par exemple, de la succession. Tu sais, je donne un exemple, le dossier, c'est un dossier qui voit qu'une réclamation serait 100 000 $ et la succession a été uniquement de 50 000, bien là, la succession ne pourra pas être condamnée à plus que 50 000.
Mais reste qu'elle peut être...
C'est ça, oui, elle ne peut pas s'en décharger
non.
ou refuser.
Non,
ou
exactement.
Puis même si on refuse la succession, on ne refuse pas les droits de la propriété.
Non, ben en fait, si on refuse la succession, là, honnêtement, c'est le curateur public qui entre au dossier. J'ai pas eu beaucoup de dossiers à cet effet-là. Là, j'en ai un en cours actuellement. Je pourrais vérifier ça, mais non, effectivement, quand on renonce à la succession, peut-être, par exemple, qu'on pourrait être exonéré. Mais dès qu'on accepte la succession, on peut être poursuivi.
Quand même.
Mais ça n'empêche pas Revenu Québec de pouvoir être poursuivi non plus. Tu sais, tout est possible.
Puis, tu sais, on pense connaître la garantie légale, on en a jasé à plusieurs reprises, puis en dedans de 7-8 minutes, là, on vient de changer complètement notre réflexion par rapport à tout ça.
C'est sûr qu'on a shaké 2-3.
Ah oui, bien c'est sûr, puis tu sais, ça va être un segment qu'on va réécouter encore et encore. Puis tu sais, on peut la limiter dans le temps aussi, la garantie légale de qualité. Kevin, par exemple, tu achètes ma propriété, moi je te dis, écoute Kevin, je te vends ma propriété sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. J'ai vraiment aucun problème avec mes titres, le certificat est conforme, c'est une propriété qui est de 2016, tu sais, il n'y a pas de problématique sur ma propriété. Puis, moi je décide de te vendre ma propriété sans garantie légale de qualité parce que j'ai un problème de santé pour X raisons qui fait en sorte que je ne veux pas nécessairement que tu puisses avoir un recours contre moi. Comme ça fait seulement un an que je suis propriétaire, ben je veux pas être garant non plus de la personne avant moi qui était propriétaire. Fait que moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux venir limiter dans le temps la garantie. C'est-à-dire, Kevin, je te vends. Par contre, ça va être sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur pour la durée que moi, je vais l'avoir habité. Ce qui va faire en sorte que je vais pas limiter tes droits à pouvoir venir poursuivre le propriétaire antérieur. Si lui avait fait des rénovations ou fini sous-sol d'une façon incorrecte, ça va être sa responsabilité à lui. Fait que dans un cas comme ça, moi, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens bumper par-dessus moi la responsabilité à quelqu'un d'autre. Sauf que la...
c'est toujours un mais.
Mais c'est ça, mais la personne en arrière, tu sais, à place d'avoir deux propriétaires successeurs, tu sais, on est rendu trois dans la problématique, on peut splitter les frais, etc., bien, il y en a un qui... Faites une bulle par-dessus, puis ça fait en sorte qu'il ne fera pas partie de la résolution de problème. Là.
Non, c'est ça. Bien, la personne qui, elle, avait vendu avec garantie légale, mais donc son acheteur, lui, a vendu 100, elle se ramasse la première au bat, comme au baseball. Puis là, c'est à elle qui incombe la responsabilité. Moi, mon seul bémol, effectivement, c'est possible. Quand que les parties comprennent bien ça, tout est clair, il n'y en a pas de problème, mais c'est quand il y a une ambiguïté, puis peut-être que aussi l'ancien propriétaire pourrait invoquer la renonciation de l'acheteur à son égard, de dire écoute, tu as renoncé à la succession légale à l'égard de mon acheteur à moi, ce qui fait en sorte que ça s'applique à moi aussi. Parce que moi, tu m'as enlevé des droits alors que je ne te l'ai pas autorisé ou tu ne m'en as pas parlé. Fait que oui, c'est une solution, mais ce n'est pas une solution nécessairement facile non plus. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être invoqués.
Ce que tu dis, c'est que, mettons, techniquement, ça ne doit jamais se faire, mais il faudrait que le vendeur en question, mettons, toi dans l'exemple, tu annonces à ton propre vendeur que tu es en train de te dégager à l'autre. Donc là, il est en connaissance de cause.
Ben, idéalement,
mais
si
un recours,
la réalité
n'est
pas là.
On est dans le théorique, non,
c'est ça. Mais parce que si on fait ça, là, on bump, là, on s'en va à l'autre d'avant. Moi, je peux vous en sortir de rette là, à peu près une quinzaine d'argumentations que je pourrais dire, ben la quittance s'applique à moi aussi, j'ai pas de lien de droit avec toi, comment ça tu me poursuis? T'sais, oui, c'est possible, mais c'est plus complexe. Et c'est pas autant direct que notre vendeur.
Puis, c'est pas nécessairement pertinent de monter cette clause de le présenter comme ça. Ou,
tout dépendamment du contexte, tout dépendamment de la situation, parce que c'est toujours ça dépend. Là.
Ouais.
Mais oui, ça va s'appliquer exactement à des situations très précises aussi par rapport à ça. Puis tu sais, c'est galvaudé un peu ces temps-ci. Il y a des gens qui disent ben non, on devrait faire un bump pour s'assurer que l'acheteur va, oui, acheter sans garantie légale de qualité, mais va avoir quand même des recours contre les propriétaires antérieurs, mais il y a aussi une qualité de temps. Tu sais, moi, par exemple, Kevin, même maison, même projet, même affaire, je te dis, écoute, Kevin, moi, je te vends ma propriété avec garantie légale pour les deux prochaines années, puis dans deux ans, tu sais, au 1er janvier 2024, ben qu'est-ce qui arrive? Ça va être vendu sans garantie légale de qualité au risque et péril à l'acheteur. Fait que si tu as des recours... Si tu as un recours à faire, tu peux le faire dans les deux prochaines années, parce qu'au 1er janvier, là, c'est fort bon, mon ami, tu n'auras aucun recours avec nous. Puis, tu sais, avec ça, s'ajoute des systèmes de protection. Chez Remax, il y en avait eu un à l'époque qui était intégrité. Il y avait un rapport, etc. C'était plus un service de médiation. Mais, tu sais, on était capable de venir jouer dans le temps à quel moment que le rapport était conforme, à quel moment que ça s'appliquait, etc. Fait que les garanties, on peut les fixer dans le temps aussi sur « on t'en donne une pour une durée limitée ouais. ».
Tu l'offres-tu prolongée?
Non, il n'y a pas.
C'est pas garanti sur la maison. Ouais. Mais oui, on peut limiter dans le temps. Moi, ce que j'aime dire à mes clients, là, quand on s'entend avec la partie adverse, là, tout est possible. Tu sais, à moi, les choses illégales, on peut pas bypasser ça, là, mais tout ce qui est légal de faire, on peut le faire. Donc, dire je t'octroie une garantie légale, par exemple, pour X nombre d'années, c'est possible de le faire. Parce que, en théorie, la garantie légale, elle n'a pas de limite dans le temps. Donc, il y a des gens qui se font poursuivre pour une maison qui ont eu ouais. 20 ans. Là. Ça, c'est pénible. Là. Mais malheureusement, si c'est un vice de construction, ben, il faut retourner à l'époque de sa construction. Fait que si ça fait 30 ans, ben, ça fait 30 ans. Là.
Mais justement, on retourne au vice de construction. Il y a un constructeur qui le construit. Le constructeur n'est plus en affaires. Le recours revient au premier propriétaire. Là.
Exactement, ça s'arrête au premier propriétaire. Même chose quand quelqu'un fait faillite.
Ça brise la chaîne.
Ça s'arrête là. Si le premier propriétaire ou l'entrepreneur qui a construit a fait faillite, ça s'arrête à l'acquéreur subséquent. Ben,
ça s'arrête justement ou ça bump? Quand quelqu'un fait faillite dans la séquence qu'on
ben,
ça bump à l'autre ou les autres en arrière sont tous clairés?
On peut bumper, mais c'est pas... Tu sais, je veux juste pas que les gens pensent que c'est facile de bumper
mais
nécessairement.
Non, c'est ça, exactement. Planifie.
Mais ça arrive souvent, en fait, qu'on remonte, on fait l'historique des titres. Là. La maison a été construite, par exemple, dans les années 1970 et on se rend compte que l'entrepreneur n'est plus en affaires. C'est complètement une coquille vide. Mais
ah oui.
Ça vient pas mal de s'arrêter là. Puis, on avait discuté là, avant la rencontre d'aujourd'hui de la levée du voile corporatif pour aller chercher l'actionnaire de la compagnie de construction personnellement. C'est une lourde tâche. Le fardeau de preuve est assez difficile. Donc, si la compagnie n'est plus en affaires...
Parce qu'on comprend que pour le lever du voile corporatif, il faut prouver qu'il y avait vraiment comme une mauvaise intention. Ben, c'est pas juste une pratique... qui n'est plus conforme maintenant,
non,
qui a été appliqué. Tu sais, c'est
exactement. Bien fait, ce là, c'est vraiment lourd comme fardeau de preuve. Ouais.
Quand même. Écoute, on a juste... pour vrai, là, je suis vraiment content d'avoir parlé de la garantie légale de qualité parce que à toutes les fois...
Tu vas prendre des notes pas mal.
Oui, oui, tu sais, on a parlé, on a fait ci, on a fait ça, mais tu sais, la réalité, c'est que c'est tellement... Il y a tellement de subtilité, il y a tellement de nuances, puis ça fait en sorte que les gens sont mal informés aussi, puis ça part par les courtiers immobiliers aussi sont mal informés, là, parce que quand on va parler des garanties puis des différentes nuances...
Ben, c'est vous les conseillers, comme tu dis au début, vous donnez des formations, c'est ce qui fait qu'ultimement, les dossiers qui finissent en litige chez vous, c'est souvent pas par des courtiers, mais c'est
non, exact.
Parce que, tu sais, je veux dire, il y a une formation à faire, là, c'est pas...
Ouais.
Vous êtes pas né en sachant tout ça, là.
Non, puis on apprend encore et à tous les jours, là.
Non, c'est ça, puis il y a une nuance aussi que je veux apporter aujourd'hui, là, quand on vend sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, là, on n'octroie aucune garantie. Faut pas penser que parce qu'on a caché quelque chose qu'on savait, on est libéré. Je l'ai entendu cette semaine, des gens, mes clients ont dénoncé une situation à ses vendeurs puis elle a dit « T'avais juste à pas acheter sans garantie légale. » Non, mais excuse-moi, mais si tu l'as volontairement caché...
Ça s'appelle du dol.
Exactement. Ah oui. Là, peu importe...
C'est pas le même recours.
Non, exactement, c'est un recours en dol et donc la responsabilité peut être... rechercher, en fait. C'est ça, exact. Donc, la madame, elle sera malheureusement pas libérée. Je trouve ça vraiment moche parce que c'est quasiment une admission qu'elle le savait. Ceci dit, faut pas non plus penser que la garantie légale, on peut se cacher de n'importe quoi. Là. On est toujours mieux d'être hyper transparent dans tout.
Ouais, c'est ça. Faut avoir fait ses devoirs correctement pour qu'elle soit applicable.
D'où l'importance d'avoir une déclaration du vendeur complète, détaillée. Ouais. D'où l'importance que l'acheteur fasse ses vérifications diligentes aussi face à inspecter la propriété parce que tu sais, il y a eu une certaine époque que c'était toujours la faute du vendeur quasiment, puis de plus en plus les juges responsabilisent les acheteurs puis disent ben écoute monsieur l'acheteur, vous avez pas fait inspecter malheureusement, tu sais, vivez avec là. Tu sais, la réalité, elle se passe vraiment comme ça. Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière, c'est diffusé tous les samedis 11h. Vous désirez plus d'informations, c'est simple, allez sur notre site internet jeanfrançoismorin.ca.
Des opinions, The Real Talk, du gros fun.
L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, a beaucoup de clients actifs.
Vous êtes courtier et aimeriez être encore plus dans l'action?
Nous sommes prêts à partager notre structure d'affaires avec des courtiers ambitieux afin de vous permettre de faire minimum entre 20 et 60 transactions par année.
Contactez directement Jean-François Morin,
88-801-8011.
18 ans et plus! Non! Juste pas pour les doux!
De retour à La Bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault. Pour vos besoins d'analyse ou d'optimisation de projet, il faut te contacter à quel endroit?
Sur Facebook à Plan de match Renault ou au 418-456-7717.
On a parlé des garanties légales de qualité, sans garantie, avec les garanties, au risque et péril des acheteurs. Pour vrai, là, c'est vraiment... Quand on ne connaît pas ça, c'est un beau bordel. Fait que ça vaut la peine de réécouter le premier segment, exact. De réécouter le premier segment, mais encore plus, si jamais c'est pas clair, Stéphane Pagé puis Geneviève Côté donnent de la formation justement pour mieux expliquer la garantie légale, parce que c'est quand même un gros morceau dans l'immobilier.
Chaque situation est unique aussi.
Définitivement, puis chaque contexte est unique aussi. Là. Fait que ça, c'est quand même important de bien connaître les nuances de la garantie. Mais un des sujets que tu me disais que tu aimais énormément dans les recours, dans les litiges que tu vivais dans ta pratique, c'était beaucoup les désistements de promesses d'achat. Parce que, tu sais, pour vrai, ça nous arrive régulièrement. J'ai eu un courtier dans l'équipe que pour la même cliente, elle s'est retirée 4 fois d'une transaction. Puis là, tu sais, la première fois... Il n'y avait pas nécessairement de clause pour se retirer. Il y avait des offres multiples. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai suggéré au courtier? J'ai dit, écoute, appelle le courtier qui représente le vendeur. Explique-lui la situation comme de quoi que la madame, elle a agi trop vite. Puis qu'il est mieux de se concentrer sur les autres offres qu'il a reçues parce que la dame veut se retirer. Puis là, tu sais, j'ai dit, assure-toi d'avoir un avis écrit de ta madame. Assure-toi de transmettre la documentation, etc. Tu sais, pour protéger sa transaction, etc. Puis le courtier l'a remercié pour dire, waouh, c'est vraiment cool que tu aies pris la peine de faire ça parce que... Mais après ça, c'est arrivé une deuxième fois. Puis là, tu sais, la deuxième fois, j'ai dit, écoute, si cette cliente-là, puis tu sais, c'est arrivé avec un autre courtier, fait que tu sais, nouvelle situation pour l'autre courtier, mais lui, ça fait 2 fois qu'il vit cette situation-là. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, à partir de maintenant, pour cette cliente-là, peu importe ce que tu vas faire comme offre, assure-toi d'avoir une clause de sortie. Puis tu sais, la clause de sortie, ça peut être la visite, ça peut être n'importe quoi, mais assure-toi d'avoir une clause de sortie pour te protéger. Puis... Ouais. Finalement, il y a eu une clause de sortie qui s'est arrivée une troisième fois, puis la quatrième fois, tu sais, elle a acheté la propriété, mais reste que quand même.
C'est du taponnage. Oui. Ouais.
C'est quoi dans vos pratiques qui peut arriver par rapport à ça? Puis c'est quoi les cas qui sont les plus vus?
Bien, on se le cachera pas, là, depuis le début de la pandémie, là, le marché immobilier est un peu en feu, là, je dirais plus en furie même, parce qu'il y a des. Quand c'est en feu, des fois, c'est toujours positif. Il y a beaucoup de négatifs là, dans la situation actuelle. Je disais que j'aimais ces cas-là parce que c'est pour moi, c'est du bonbon. Parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut se retirer oui ou non? Il n'y a pas de technicalité nécessairement par rapport à ça. Il y a deux cas les plus fréquents. Là, mettons, quand on se place dans la position acheteur, c'est l'acheteur qui dépose une promesse d'achat trop vite. Il a mal regardé ses choses. Il n'a pas procédé à une visite nécessairement diligente de la propriété. Un coup de cœur, agir sur les émotions.
Il a offert un prix trop élevé aussi, puis il dira « Ah non, crime, je paye ça bien trop cher, finalement, ça ne me tente pas. » Ou
il trouve autre chose le soir même.
Une nouvelle propriété sort, puis il fait comme « Ah ben non, tu sais, pour 20 000 de plus, je préfère acheter l'autre.
Oui. » C'est ça. Puis, si on va revenir au comment s'en sortir, mais... C'est pas facile nécessairement de se sortir de ça. Puis tu sais, quand on signe une promesse d'achat ou qu'on l'accepte, il faut savoir que c'est un contrat. On a mis notre signature dessus. On est lié par ça. C'est pas juste parce que c'est une promesse que ce n'est pas aussi sérieux. Côté vendeur, ce qu'on voit souvent, c'est des vendeurs qui acceptent une promesse d'achat, mais que, par exemple, 4 heures après, ils ont une offre d'achat qui rentre de 50 000 de plus ou 25 000, peu importe combien de sous de plus qui sont offerts, et qui là, qui veulent se désister à l'égard des...
De ceux acceptés.
Exact, de ceux achetés. Mais c'est pas possible, tu sais. D'où l'importance de prendre le temps. Puis là, il y a beaucoup d'offres multiples ces temps-ci, on le sait, mais prenez le temps de bien les analyser avant de mettre une signature puis d'accepter ça, là. C'est fondamental.
Puis tu sais, on en parlait justement dernièrement avec d'autres investisseurs, mais on disait, de notre point de vue, ça semble... un peu plus facile de s'en sortir comme acheteur que comme vendeur, parce que si tu ne te présentes pas ou que tu ne vas pas jusqu'au bout de ta démarche, c'est quand même assez difficile pour le vendeur de vraiment forcer, tandis que de l'autre bord, c'est peut-être plus... Mais est-ce que c'est ça dans la pratique, dans le sens que c'est quoi les...
La passation de titre, il doit en avoir quelques-unes, mais il y a souvent un lâcher-prise avant.
Oui, exact. Mais en fait, je vais répondre oui à ta question parce que...
ne sais pas.
ne sais pas. Exact, la cause ne sais pas qui ne sait pas est une réponse, comme on a dit tout à l'heure. Quand on est acheteur, là, les motifs de désistement, c'est, par exemple, on fait faire une inspection pré-achat, laquelle était prévue à la promesse d'achat, évidemment. Oui. Et on se rend compte qu'il y a de multiples problèmes avec la propriété, puis des problèmes qui sont importants. Le critère de la jurisprudence, c'est une problématique qui est de nature à diminuer de manière significative l'utilisation et ou la valeur de la propriété. Donc, par exemple, on a un rapport d'inspection pré-achat qui nous dit de refaire les joints de calfeutrage autour des fenêtres et qu'il y a une fissure dans le crépi de béton. plus difficile. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut se retirer. C'est pour ça que avant de faire une promesse d'achat, aussi les éléments visibles. Je donne un exemple, je l'ai vu souvent depuis la dernière année, disons, des gens qui visitent rapidement, font une promesse d'achat et pas conditionnel à l'inspection, première erreur. Mais deuxième erreur, c'est des éléments, comment je pourrais dire ça, hein? J'allais dire « obvious », le mot anglais, mais
évident
là, que c'est visible et tout. Ouais. Mais on ne peut pas non plus se désister par cet élément-là. Je veux dire, on avait juste à regarder.
C'était vu. T'sais, puis là, par exemple, on va donner l'exemple de la toiture. Puis la toiture a été vue, sauf que il y a des arguments qui peuvent être donnés aussi en conséquence. T'sais, je te donne un exemple. Je vois la toiture est assez usée. Moi, dans ma tête, je me dis, elle est bonne encore pour 5 ans. On fait inspecter la propriété. L'inspecteur dit, non, c'est maintenant qu'il faut que tu la changes. Fait que l'information vient changer. Oui, je l'avais vu. Par contre, l'expert vient confirmer une information qui, pour moi, est erronée sur ma perception que j'avais initialement. Ça pourrait être quand même invoqué.
Oui, ça pourrait être invoqué. Chaque cas est un cas d'espèce, comme on dit. Là, tous les cas sont particuliers.
Juste pour la technicité, là, c'est pas nécessairement un désistement, dans le sens c'est un retrait d'une promesse d'achat dans le cadre d'une des clauses.
Non.
Là, ce qu'on veut plus discuter, c'est les gens ont clairement déjà fait leur idée qu'ils veulent se sortir de ça.
C'est ça.
Là, ils essaient de jouer sur les cartes
n'importe quoi. Là.
Exact, c'est ça. Ils se tirent un peu partout. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on est acheteur puis on veut plus acheter. Puis là, on dit, c'est correct que je ne demanderai pas de preuve de financement. Tu sais, moi, je ne vais rien faire, je vais laisser expirer le délai. Mais premièrement, on peut avoir une mise en demeure du vendeur qui nous exige de faire les vérifications auprès de notre prêteur hypothécaire. Puis quand on est de mauvaise foi, on ne pourra pas invoquer ça. J'ai attendu, j'ai rien fait, puis les délais sont tous expirés, fait que moi, je me retire. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on soit de bonne foi. Là.
Exact. Puis tu sais, il faut aussi penser que majoritairement, les conditions qui sont mises à l'intérieur des promesses d'achat, c'est des délais qui viennent se satisfaire de la condition, non pas de se retirer de la transaction. Puis tu vois, moi, toutes mes transactions commerciales, j'ai toujours une clause qui fait en sorte que les délais vont faire en sorte qu'on va pouvoir aussi mettre fin à la promesse d'achat pour garder deux portes de sortie sur différentes situations. Par contre, on a d'affaires à être sharp sur nos délais parce que il ne faut pas attendre la dernière journée que la personne ne signe pas à temps parce que là, la promesse d'achat devient nulle.
Le rapport de force est des deux bords, dans le fond.
Exact.
C'est un excellent point parce qu'en matière immobilière, les délais ne sont pas de rigueur. Il y a certains délais de rigueur, mais la règle générale est que les délais ne sont pas de rigueur à moins de stipulations contraires. Fait que si vous voulez que ça en soit un, si vous voulez que tous les délais soient de rigueur puis que s'il y en a un qui n'est pas respecté, la promesse d'achat devient nulle et non avenue, il faut l'indiquer. Et c'est possible de le faire. Comme j'ai dit là, dans le premier segment, tout est possible. Il faut qu'on soit d'accord puis qu'on l'ait consigné par écrit.
Puis du point de vue du vendeur qui sent que son acheteur, clairement, essaie d'aller à la sauvette, sauver, de se désister, c'est quoi ses options? C'est quoi qu'il peut faire? T'sais? On en parlait un petit peu en entrevue. Est-ce qu'il peut continuer sa démarche? Dois-tu être stand-by de voir l'autre expirer son délai puis étirer la sauce?
Il y a deux options. T'sais, si par exemple, on fait face, on est en présence d'un vendeur qui a des offres multiples, puis que là, il dit, bien là, regarde, moi, lui, cet acheteur-là, il est en train de me niaiser, puis j'aurais d'autres offres que je peux perdre si jamais je les accepte pas. Ce qu'on peut faire, c'est transmettre une mise en demeure à l'acheteur, le premier, disons, qu'on a accepté, et lui dire, écoute, si tu ne lèves pas tes conditions ou si tu ne les remplis pas d'ici le ou au plus tard le, la présente deviendra nulle et non avenue. Donc, on met un délai de rigueur. Et selon... Puis, tu sais, le délai peut être court, là, tu sais, de manière à ce qu'ils ne perdent pas les autres offres. Et si on n'a pas de nouvelles de l'acheteur, bien, parfait, on donne le feu vert au vendeur pour accepter une autre promesse d'achat sans hésiter. Par contre, ça arrive, oui.
Mais ça, c'est quand même un point super important. Fait que, tu sais, on reçoit plusieurs offres, puis tu sais, nous, on le fait à plusieurs reprises, puis ça ne veut pas dire que la meilleure offre est la meilleure offre.
Non.
Parce que dans le fond, souvent, nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième offre, puis on va le challenger à un prix supérieur. Sauf que là, c'est important dans un cas comme ça. Par exemple, on a jusqu'à midi aujourd'hui, 11h, je vais inscrire dans ma contre-proposition, écoute, on te fait tel prix, telle chose. Mais dans ma contre-proposition, je vais marquer le délai d'acceptation est un délai de rigueur qui fait en sorte que si tu ne m'avises pas, ben moi, je passe à l'autre offre.
Exact.
Mais est-ce que le délai de rigueur pourrait faire en sorte que, par exemple, il signe à 11h58, mais il m'avise à midi 2, puis moi, je suis déjà engagé avec l'autre?
Oui, ça, c'est difficile, là, parce que j'en ai eu des dossiers où est-ce que ça a signé la minute avant que ça l'expire. Là. Généralement, idéalement, je vais dire, faut que ce soit reçu avant l'expiration du délai.
Surtout si on marque un délai de rigueur.
Oui, exact. T'sais, signer à la dernière minute, c'est jamais bon. Puis non plus laisser expirer le délai pour signer volontairement après, ça non plus, c'est pas une chose à faire.
Mais tu sais, je pense qu'on pourrait aussi tweaker la clause en mentionnant, par exemple, que le délai d'acceptation est un délai de rigueur, incluant
un avis
reçu à l'intérieur de ce délai-là. Là.
Puis tu sais, pour continuer sur l'exemple, là, tu parles d'un vendeur où, qui a d'autres options, puis qui est confortable avec le fait de se dégager, de tasser l'acheteur qui essaie de se décider. Mais si, par exemple, nous, on voulait rester lié avec lui, c'était notre acheteur et tout, mais on veut peut-être continuer les démarches sur le site en bon français, sans nécessairement le dégager ou dire, gars, ce soir à minuit, t'es dégagé parce qu'on perd toutes nos options. Là, on recommence le processus. C'est quoi qui s'offre à nous, dans le fond?
C'est toujours ça qu'il y a plusieurs options. Par exemple, un vendeur là, qui a eu une promesse d'achat acceptée, les conditions sont levées. On va prendre celle-là. Puis là, l'acheteur ne veut plus acheter pour une raison X. Oui, exactement. Ce que le vendeur peut faire, c'est transmettre une mise en demeure pour forcer la vente, de dire « Écoute, moi, je te mets en demeure de venir signer l'acte de vente le ou au plus tard le avec la date. » Et où il peut aussi, si l'acheteur refuse toujours, intenter une procédure judiciaire, déposer une poursuite en passation de titre. Et ça, ce que ça vient faire, c'est de forcer quelqu'un à acheter. Donc, le jugement va équivaloir à titre de propriété. Donc, il va devenir propriétaire. Par contre, en droit civil québécois, on a un principe que la victime doit mitiger ses dommages. Donc, comment mitiger ces dommages? C'est de remettre en vente la propriété et de tenter d'obtenir le même prix ou un prix très similaire pour que nos dommages soient minimisés. Par exemple, les frais d'hypothèque et taxes municipales et scolaires qu'on a assumés dans l'intervalle. Mais tu sais, si on vend, par exemple, le même prix, il reste la partie dommage, comme je vous dis, les dépenses engagées. Si on vend un peu moins cher, ben on a notre recours pour la différence de prix. Exemple que moi, je voulais forcer des gens à m'acheter à 235 000, puis que finalement, j'obtiens un prix de 220 000, ben j'ai un 15 000 de recours plus les dommages subis. Là.
Puis tu sais, en même temps, c'est à cause que si cette situation-là arrive, on ne peut pas juste agir de mauvaise foi puis dire non, tu vas acheter ma maison, puis non, tu vas l'acheter, puis pas permettre genre d'avoir une piste de solution puis de limiter le dommage. C'est ça que tu expliques.
Non, exact. Tu sais, on remet en vente. Moi, c'est toujours ce que je conseille. C'est pas nécessairement une obligation, mais clairement, pour la mitigation des dommages, ça va aider. Moi, je conseille toujours de remettre en vente. Puis, tu sais, si on revend pas, on a quand même notre recours complet en passation de titre. Là. C'est juste une autre porte de sortie. Puis si on
ça démontre aussi une bonne foi.
Ben oui, puis si on revend, ben crime, c'est tant mieux. On arrête de payer les taxes municipales scolaires, l'hypothèque et tout ça.
On passe à notre prochain projet aussi, puis on arrête de vivre dans une situation
exactement.
De stress. Là.
Exactement.
Mais tu vois, nous, on a eu une situation particulière récemment. Écoute, on représente des acheteurs qui veulent s'acheter du neuf. Toutes les ententes écrites, verbales, les communications, toutes pour la fin octobre. Nous, on met la propriété sur le marché, reçoit une offre d'achat, confirme avec les clients. Les clients, ils disent non, tu sais, nous, c'est fin octobre, c'est entendu avec l'entrepreneur, etc. On accepte l'offre. Les gens font leur inspection. On est rendu à la 8e journée sur les 10 jours du financement. Notre option, c'est d'attendre la 10e journée minuit pour envoyer un avis pour rendre nulle la promesse d'achat. Parce que l'entrepreneur, entre-temps, il a dit non. Il dit, moi, j'ai booké d'autres gens entre-temps. Fait que ton projet va être en mars. Mais là, les clients, ils ont des enfants, etc. Puis on n'est plus pas en tout à la même place.
Non, c'est...
La zone de stress que ça l'a amené pour ces clients-là, c'est incroyable. Puis tu sais, moi, dans la représentation qu'on faisait avec ça, ben c'était entendu. Tu sais, fait qu'on peut pas, on pouvait pas changer ces éléments-là. Puis là, ben les clients sont liés avec un acheteur qui veut acheter la propriété pour la fin octobre. Tu sais, jeune couple, un nouveau bébé en décembre. Ouais. Tu sais, eux autres veulent pas retarder en mars non plus, là. Puis là,
tu sais. Là, c'est la chaîne, tu sais. C'est comme
ben, puis de quelle façon qu'on amène à trouver des solutions par rapport à ça? Tu sais, on veut pas vendre deux fois la propriété, on veut pas nuire aux acheteurs non plus. Tu sais, il y a comme le contexte d'offres multiples où qu'on avait une très belle offre aussi. Tu sais, il y a bien des affaires qui viennent en ligne de compte. Puis finalement, ben, tu sais, on a travaillé un peu plus fort avec l'entrepreneur, puis on a maintenu la date, mais pour vrai, là, c'était une zone de stress incroyable.
Puis, tu sais,
autant les acheteurs que les vendeurs, là, parce que les acheteurs avaient peur que ça fonctionne pas.
Ben oui, c'est stressant du côté acheteur, parce que là, on a parlé peut-être plus comme justement si l'acheteur veut se désister, désistement au niveau de l'acheteur, mais quand le désistement se passe au niveau du vendeur qui essaie d'avoir le 30 000 de plus, puis toi, tu es acheteur, puis tu es dans le processus, tu avances, mais tu le sens bien qu'il essaie de te tasser ou d'en prendre un autre. Tu peux peut-être nous dire un peu ce que ça peut impliquer, parce que c'est quand même surprenant, là, ce qu'on avait discuté en préambule.
Ben, dans ce contexte-là, par exemple, ça aurait pu arriver.
Exact,
là,
c'est ça.
Les gens étaient de super bonne foi, puis on était tout le monde en mode solution, mais ils auraient pu dire non, moi, je ne sors pas de chez nous le 28 octobre.
C'est ça. C'est ça. Ben, en fait, c'est aussi pénible pour les acheteurs, là. Sinon, c'est de l'incertitude, là. Ça met les gens dans des positions épouvantables, là, qu'on sait pas où est-ce qu'on va habiter. Puis, tu sais, le logement, c'est un élément important de notre vie, là. Sincèrement, on a nos besoins essentiels, là. Puis, se loger.
Aussi, c'est parce que quand on est acheteur, on est presque toujours vendeur.
Oui.
C'est,
je veux dire, oui, effectivement.
Dans le sens qu'on est en train de jouer sur deux tableaux, là.
C'est t'sais. Ça. Ce qu'on peut faire, là, mettons qu'on fait face à un vendeur hyper de mauvaise foi, puis qu'on le sait que si on n'agit pas ici maintenant, il va revendre à quelqu'un d'autre,
ouais.
On peut déposer un recours en injonction. Ça, c'est des recours qui sont entendus rapidement par la cour. C'est des recours, entre guillemets, d'urgence. Et les seuls motifs pour lesquels on peut demander ça, c'est pour forcer quelqu'un à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc, on va demander une injonction pour le juge. Oui, vas-y.
Mais j'allais dire, est-ce qu'on doit avoir complété toutes nos clauses,
ah, absolument,
nos conditions.
Oui,
faut que ça soit final. Si on sent qu'ils essaient de nous tasser, c'est parce qu'on le dit souvent, c'est le soir même qu'il reçoit une offre de 40 000 de plus. Fait que si déjà le lendemain, première visite des lieux, tu sens que hey, j'ai une deuxième offre, probablement que ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'il faut que tu te rendes au bout de tes conditions d'inspection et tout avant de pouvoir avoir droit à ce recours-là?
Oui, il faut se rendre au bout de nos conditions et où il faut que les délais ne soient pas expirés. Tu sais, par exemple, qu'il reste un délai de 3 jours pour obtenir mon financement. Ça fonctionne aussi, tu sais. Mais si on n'a pas de financement, on peut pas.
Il faut que les conditions soient pleinement satisfaites et que la promesse d'achat soit finale. Tu sais, dans le fond, là, c'est scellé. Il nous restait à passer chez le notaire, puis là, ça commence à chérir. Là.
Conditions pleinement satisfaites ou délai non expiré. La promesse d'achat est toujours en vigueur, elle tient toujours. Donc, ça va être de demander à la cour d'empêcher le vendeur de vendre sa maison dans l'intervalle. Parce que en tant qu'acheteur, on peut aussi intenter un recours en passation de titre, donc pour forcer les vendeurs à nous vendre. Mais dans l'intervalle, il n'y aura pas le droit de vendre. Fait que c'est la bonne nouvelle.
Puis, s'il vend, c'est là que l'histoire devient le fun. S'il continue sa démarche et qu'il présente à quelqu'un qui n'est pas du tout en connaissance de cause de la situation et qui vient acheter,
on va l'appeler le tiers. S'il vend à un tiers qui n'est pas parti à la promesse d'achat, malheureusement, pour l'acheteur qui s'est fait tasser, on ne peut pas opposer la promesse d'achat au tiers de bonne foi. Donc, si le nouvel acheteur, lui,
c'est ça. Complètement
fou. Ouais. Bordel. Ouais, disons-le en bon français. On s'en va dans le bordel, ça me tentait.
Oui, c'est ça. Je voyais ton visage qui était super excité par rapport à ça.
C'est parce que c'est pas moi que je suis excité parce que ça doit vraiment pas être le fun côté-là.
Non, vraiment pas. C'est ça. Donc, le tiers de bonne foi peut pas se faire invoquer à un acte pour lequel il n'était pas parti. T'sais, si le nouvel acheteur, il se doutait de rien, lui, ses conditions sont levées, la promesse d'achat est faite, puis tout est conforme, il ne pourra pas se faire dire après, excuse-moi, je reprends la maison parce que moi, je t'étais supposé acheter avant toi. Ça mettrait les gens dans une position d'instabilité. Les titres de propriété, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, une fois que l'acte de vente est signé, tout ça,
il y a quand même un notaire qui vient faire une situation tampon aussi, là, parce que quand il va faire l'acte de vente avec le tiers, il va dire au vendeur dans ses déclarations du vendeur comme de quoi qu'il n'a pas vendu sa propriété à quelqu'un d'autre.
Ça, c'est sûr, sauf que lui, il peut répondre non. J'ai pas la clause devant moi à l'heure où on se parle, mais si la clause, c'est est-ce que tu as vendu ta maison à quelqu'un d'autre, lui, il peut dire non. Il a juste signé une promesse d'achat. Il n'y a pas d'acte de vente qui était signé.
Mais si notre acheteur initial a fait son recours en injonction, là, il y a comme un gel. Mettons, on fait toutes les situations, on fait le tour, mais s'il y a une injonction en ce moment qui plane, il y a comme un gel qui fait que l'acheteur tiers dans la situation, son notaire devrait constater que il y a un flag ici, il y a quelque chose qui se passe.
Là, il ne pourrait pas y vendre.
C'est ça. Sauf que, tu sais, moi, je me mets dans la position d'un notaire où est-ce qu'on a un vendeur qui est clairement de mauvaise foi là, pour avoir vendu un tiers, puis qui dit non, il n'y a personne, j'ai signé aucun autre document, non, j'ai pas signé d'acte de vente, puis non, il n'y a pas de recours contre moi. Je fais pas de responsabilité professionnelle, mais il faudrait voir si c'est dans les obligations du notaire d'aller faire une recherche à savoir s'il y a un litige en cours par rapport à cette propriété-là. C'est un peu poussé.
T'ouvres le registre foncier puis comme ça flash rouge. Là.
Ben non, exactement. À moins qu'on fasse. Il faudrait qu'on publie. Oui, si on publie quelque chose au registre foncier, mais c'est pas parce qu'on fait un recours en injonction que nécessairement on publie un avis. On peut le faire super rapidement, auquel cas la notaire va pouvoir le voir. C'est sûr que c'est l'option la plus sécuritaire. Là.
Parce que tu disais que l'injonction, c'est une démarche de plusieurs semaines en quelques jours, parce que je veux dire, souvent...
C'est ça, exact.
Ça se passe, puis on n'a pas le temps. Là.
Non, c'est ça. Fait que ça se passe super vite. Fait que oui, l'idéal, mention au registre foncier, injonction, mais si on n'a pas le temps... Ça se peut que ce soit juste l'injonction, auquel cas la notaire, je ne sais pas si on peut lui reprocher ça tant
non,
que ça.
Non, je comprends. Okay. Ça veut dire que le premier acheteur qui est en train de se faire vraiment passer la maison sous le nez, puis le nouveau l'a acheté, il se retrouve juste comme bec à l'eau, puis c'est terminé.
L'acheteur, non, mais le nouvel acheteur, par exemple, il y a un recours en dommages important. Là. Tout lui, ses frais de relocalisation, ouais. Si jamais il se trouve une maison qui est 20 000 de plus, c'est ce qu'il peut réclamer. Là. Il y a quand même, tu sais, c'est moche, mais il y a quand même un recours en dommages.
Il a perdu la maison, mais il garde ses recours, un peu comme le vendeur.
J'ai eu un dossier, là, ça me fait penser, la dame qui était supposée acheter avait démissionné de son travail justement pour commencer à travailler plus près de la nouvelle maison. Et là, ils n'ont pas pu acheter la nouvelle maison, mais elle a eu une indemnité pour le salaire qu'elle a perdu, elle, parce qu'elle ne pouvait pas savoir là, qu'elle allait rester là puis qu'elle n'allait pas avoir la maison. Donc, le fait qu'elle n'avait pas de salaire, ben ça fait partie des dommages qu'on peut réclamer.
C'est quand même fou, hein? Puis pour vrai, là, quand ça arrive, ces situations comme ça, là, nous, à titre de courtier, là, c'est d'accompagner les clients à avoir des professionnels chez Bouchard Avocat Plus ou Bouchard Plus
Avocat,
excuse-moi.
Oui. Le plus, c'est nous, c'est parce qu'on est plus.
C'est vraiment cool. Ouais. Fait que, tu sais, aussitôt qu'il arrive une situation comme ça, notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous suggérer de contacter les pros de l'immobilier, les pros en droit immobilier, puis de faire en sorte de vous faire bien accompagner.
Puis d'avoir un bon contrat aussi, tu sais, d'avoir une bonne promesse d'achat, toutes les clauses, ça aide. Puis, c'est l'éducation un peu qu'on fait aussi, dans le sens que c'est pas une affaire sur Marketplace.
Non,
là.
non, c'est
tu
ça.
Désiste pas, tu sais, c'est pas cet article est-il disponible, après mettons, ça, tu disparais.
Mettons que tu m'arrives avec une
promesse.
C'est ça, mettons que tu m'arrives avec une promesse d'achat verbale. Ça se peut que ce soit plus difficile. Oui,
c'est sûr, à faire reconnaître. Là,
Oui, vraiment.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, disponible en podcast. Vous l'avez manqué, cette section-là. Réécoutez-la, puis réécoutez le premier segment aussi, parce que c'est ultra important. La bulle immobilière est disponible sur Balados, Spotify, Apple Podcasts, mais surtout sur CJMD 96.9.
CJMD.
Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir, Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
L'Alternative Radio.
On est de retour à CJMD 96.9, l'Alternative Radio. La bulle immobilière, toujours diffusée les samedis 11h, mais surtout en podcast. On est avec Maître Geneviève Côté de Avocat Plus.
Bouchard Avocat, c'est correct aussi.
Oui, merci. J'ai vraiment rarement été aussi mauvais, je m'en excuse. Mais pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'écouter tous les segments parce que c'est vraiment intéressant. Puis dans les garanties, puis dans les problématiques, vient aussi des plans de garantie, des vis de construction sur le neuf. Puis ça, on n'a pas parlé beaucoup. Puis j'aimerais ça juste y aller brièvement par rapport à c'est quoi un plan de garantie, c'est quoi ça couvre, qu'est-ce qui est inclus, exclu d'un plan de garantie, c'est quoi les délais ou les recours qu'on peut avoir. Puis c'est juste comme donner une ligne directrice par rapport à ça, puis c'est à cause que ça peut faire partie d'un segment complet puis d'une notion complète aussi. Là.
C'est ça, puis il faut savoir que moi, je travaille pas pour la GCR non plus. T'sais, j'ai des dossiers où est-ce qu'elle est impliquée, évidemment, mais je ne suis pas une représentante de la GCR. En fait, c'est quoi ça? C'est je crois que c'est depuis la fin des années 90 que c'est obligatoire au Québec pour les bâtiments, les constructions neuves, d'octroyer une garantie. Et la GCR, en fait, c'est l'organisme là, qui s'occupe de gérer tout ça. Je me suis pris des notes parce que j'ai fait mes recherches pour bien pouvoir vous renseigner aujourd'hui. En résumé, là, la GCR, elle agit comme caution de l'entrepreneur. Donc, elle va s'assurer que si un défaut se soit réparé par l'entrepreneur et s'il ne le fait pas, elle va engager quelqu'un pour le faire. Donc, il y a trois délais en matière de GCR. Le délai d'un an pour les malfaçons non apparentes au moment de la réception de l'ouvrage. La GCR donne comme exemple, par exemple, le plancher de bois qui craque ou un appareil de plomberie, exemple un robinet qui fonctionne mal. Donc ça, évidemment, c'est non apparent quand on reçoit notre maison puis qu'on emménage dedans. Et ça doit se présenter à l'intérieur de un an. Ensuite de ça, on a le délai de 3 ans pour les vis cachés. La nuance est difficile à faire là, entre malfaçon non apparente, vis caché. Mais en matière de vis caché, on peut peut-être penser à des choses qui sont peut-être un peu plus graves. Par exemple, un tuyau de plomberie qui fuit, qui coule à chaque année petit à petit, puis qu'on s'en rend compte après peut-être 2-3 ans. On a 3 ans, on n'a pas un an, on a 3 ans justement pour faire une réclamation à la GCR. Et en terminant, on a le délai de 5 ans pour les vis de construction, de conception, de réalisation et les vis de sol. On donne comme exemple un affaissement de la maison ou un problème de structure. Donc, vraiment, au niveau des plans et devis de la du bâtiment initial, ça, on a 5 ans. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on fait une réclamation à la GCR, on analyse à savoir si c'est vraiment une problématique, si les délais ont été respectés et elle rend une décision.
Mais je trouve ça intéressant qu'on puisse le figer dans le temps puis qu'on puisse décortiquer justement les trois délais. Puis je pense que c'était le point le plus important à discuter par rapport à tout ça.
Je le savais même pas. Je sais c'est quoi le mandat de la GCR. Je sais qu'ils sont arrivés après qualité habitation, Abrita, qui ont rapatrié ça, qu'il y a une caution que moi, comme entrepreneur général, je dois fournir en assurance de 40 000 justement pour ça. Mais je savais pas que c'était découpé. En fait, on dit, en tout cas, c'est peut-être encore là galvaudé, mais on dit toujours tu as 5 ans avec ton
contrat. C'est une garantie régressive.
C'est ça.
Parce que c'est. Parce que dans la pratique, c'est un peu ça qui se fait, dans le sens que si mon robinet brise après 2 ans, il y a des fortes chances quand même que j'appelle mon constructeur neuf. Est-ce qu'il va vraiment évoquer, non, ça c'est une malfaçon non apparente d'un an?
C'est une question.
J'ai l'impression que le 5 ans devient comme un peu la norme de
tous. En fait, c'est que non seulement ça, mais l'entrepreneur, là, même après le délai de 5 ans, si la personne se rend compte que la maison elle a été construite tout croche, là, mettons qu'elle s'en rend compte à 6 ans. Oui, exact. Mais la GCR ne sera pas là, mais elle a quand même un recours contre l'entrepreneur. Ouais. C'est que la GCR, elle, si l'entrepreneur...
Vient s'assurer.
C'est ça. Elle, c'est comme une assurance, en fait. Elle va le payer si l'entrepreneur le fait pas, puis elle va s'assurer que l'entrepreneur le fait, puis que ce soit fait.
Puis, tu sais, par exemple, l'entrepreneur fait faillite à la troisième année, on découvre des vices dans le premier 5 ans, puis c'est des vices de construction majeures, bien, la GCR va venir couvrir ces frais-là. Par contre, tu sais, si l'entrepreneur arrive... Parce que, tu sais, l'entrepreneur va toujours rester garant de sa construction. Puis, tu sais, le vice de construction va devoir être régularisé par l'entrepreneur. Sauf que, tu sais, la GCR vient s'assurer de la correction pendant le délai de 5 ans. Sinon, c'est un recours légal que tu dois avoir contre l'entrepreneur.
Exactement, exactement. Puis la GCR ne va pas indemniser. Puis en terminant, 2 points importants sur la GCR, là, quand on fait une mise de fonds, quand on signe pour une construction neuve, le maximum de mise de fonds qu'on doit mettre, c'est 50 000 parce que la GCR n'assurera pas en haut de ça. Fait que si vous faites un dépôt de 100 000 puis il y a un pépin qui arrive, vous ne serez pas remboursé. C'est vraiment le 50 000, là, c'est le max qu'on doit faire. Et dernier élément, la garantie est transférable. Donc, si vous vendez votre maison après 1 an et demi, bien, la garantie de 3 ans et de 5 ans demeure pour le nouvel acquéreur.
Exact. C'est sur la propriété que la garantie s'applique, non pas sur l'individu. Fait que ça, c'est quand même super important.
Elle suit le bien et non pas le propriétaire.
Ça, par rapport au dépôt, il y a eu quelques situations qu'on a vues dernièrement, entre autres à la facture de gros dépôts que les gens ont donné pour geler une maison, mais qui ont été indemnisés, mais se sont fait rappeler qu'il y a une limite et qu'on ne doit pas d'en donner plus, sinon malheureusement la garantie s'arrête.
Puis rapidement, les 5 erreurs que tu vois régulièrement dans l'immobilier puis dans le dos.
Oui,
dans ta pratique, c'est
quoi? Dans ma pratique, première des choses, là, aller trop vite. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente. Je l'ai dit dans le premier segment, même je pense que je l'ai répété dans le deuxième. Ne pas agir sous l'effet des émotions. Là. Oh mon Dieu, la maison est parfaite. Go, on signe une promesse d'achat, on ne regarde rien. Prenez votre temps. Puis, même chose pour les vendeurs en matière d'offres multiples. Renseignez-vous, faites-vous accompagner d'un courtier. Prenez le temps d'analyser les documents puis d'accepter la bonne. Ne pas faire d'inspection pré-achat. Honnêtement, j'aurais pu la mettre dans les 5 erreurs, ça aurait pu être inspection pré-achat. Ouais. Il faut faire une inspection pré-achat.
Puis même si on est dans un contexte d'offre multiple.
Absolument, parce
que... Et dans la construction récente.
Mais encore plus si on est dans un contexte d'offre multiple, parce que ça veut dire que c'est allé vite, puis il faut éviter, parce que ça ne sera pas une excuse à la cour de dire « Ouais, mais là, il y avait des offres multiples, fait qu'il fallait que je lève mes conditions. » T'as peur, là, il n'y a personne qui t'a obligé à lever tes conditions. Là. C'est toi qui as volontairement renoncé à ça pour être sûr de ne pas perdre la maison.
Exact, puis après ça, on va toujours essayer de trouver un fautif, puis là, ils vont dire « Mais c'est le courtier qui m'a suggéré de le faire. » La réalité, c'est non. Écoute, on vient juste rementionner, même dans notre formulaire, on fait paraffer le formulaire aussi pour dire, écoutez, vous avez été mis en contexte, vous le savez, c'est un grand risque que vous prenez, puis oui, effectivement, que ça pourrait faire partie des top...
Ça pourrait être juste l'inspection pré-achat, le top 5, mais ceci dit, là, je vais résumer, quand on renonce à une inspection par un professionnel, on renonce à des droits. On renonce à pouvoir invoquer à l'encontre de notre vendeur et ou de l'inspecteur pré-achat qui a une responsabilité professionnelle, des défauts qui pour nous étaient cachés, mais qui pour eux étaient apparents. Donc, c'est hyper important. Troisième erreur, quand on revend une maison qu'on a achetée sans garantie légale, avec garantie légale.
Ça l'arrive régulièrement.
Puis ça, juste pour faire un peu plus de sous, mettons. Ouais, là, je l'achète sans garantie légale, je ne l'avais pas payé cher, mais moi, je veux la vendre plus cher. Ben, bon, tu sais, pensez-y deux fois, là, parce que tabarouette, la chaîne de titres, ça se peut qu'elle s'arrête à vous. Puis vous, ça va vous coûter autant, sinon plus, que le petit montant d'argent que vous allez obtenir.
Puis au-delà de ça, c'est que vous devenez garant de ce qui était fait antérieurement à vous.
Oui, exact.
Parce que ça, c'est quand même important. Puis là, M. Bricole, qui était là avant, que lui a fait l'électricité du sol, ne peut ne pas être conforme. Puis ça va être toi le dernier au bat par rapport à ça. Fait que tu sais, puis c'est super important de bien l'expliquer. Moi, j'explique toujours que c'est un point de rupture dans le temps qui fait en sorte que vous allez être toujours le dernier au bat. Fait que tu sais, il faut faire en sorte que quand on achète sans condition légale de qualité, bien, majoritairement, on va revendre sans garantie légale de qualité.
Puis encore là, ça se présente bien parce qu'on dit, tu sais, la chaîne était cassée avant. Je ne veux pas prendre la responsabilité de ce que je n'avais pas à prendre. Donc, je le remets sur le marché sans cette garantie-là.
Il faut faire attention aussi parce que la garantie peut être réapplicable dans un contexte, par exemple, que quelqu'un achète une succession qui est vendue sans garantie légale de qualité. Le gars, c'est un entrepreneur, il a flippé à la maison, il l'a rénové. Quelqu'un qui rénove une propriété se doit d'être garant des travaux qu'ils ont fait. Fait que, tu sais, on ne peut pas retirer des garanties sur des travaux que j'ai faits parce que c'est supposé d'être conforme au code d'aujourd'hui. Puis que tu sois entrepreneur ou pas, la norme de construction s'applique pour toi aussi.
Puis plus que ça, le vendeur professionnel ne peut exclure sa garantie. Fait que
Un entrepreneur
qui fait un flip et qui rebâtit quasiment de A à Z, bonne chance d'exclure ta garantie.
Oui.
Alors, ensuite de ça, quatrième, l'âge des propriétés, les maisons âgées. Je sais qu'il y en a qui veulent se lancer dans des projets là, de rénovation et tout ça, mais il faut qu'on sache que quand on achète une maison qui est âgée, je vais dire là, en haut de 30 ans, là, les éléments d'usure normale, les composantes qui ont atteint leur durée de vie utile, ce n'est pas un vice caché. On n'a pas de recours contre notre vendeur. Si j'achète une maison qui a été construite en 1965 puis que je me rends compte qu'il y a de l'eau dans le sous-sol parce que le drain français, il est bouché. Le drain français, là, il est fini, il n'est plus bon. J'ai pas de recours contre mon vendeur.
C'est clair, c'est clair.
Non, mais les fosses, même ça sur les fosses septiques, je pourrais vous en nommer 1000. Après 30 ans, 40 ans, il faut qu'on rénove, il faut qu'on refasse les composantes. Puis dans le temps, là, en 65, les matériaux n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et le vendeur n'avait pas l'obligation de te dire, fais attention, le drain, ça se peut que d'ici 2-3 ans, soit refait. C'est pas une obligation. Le vendeur, la jurisprudence le dit, il ne doit pas, il n'est pas obligé de dénoncer les éléments d'usure normale, ce qui est apparent puis ce qui est normal. Fait que faire attention, je ne sais pas combien de dossiers que j'ai que c'est ça mon argument de défense. C'est l'horreur, là, sincèrement.
Puis ça revient un peu à l'inspection.
Eh bien oui, absolument.
Parce que l'inspecteur va te soulever, garde,
tout le temps.
J'ai pas accès, j'ai pas de cheminée,
exact.
Ton drain, il est probablement en graisse, une construction des années 60-70.
Exact.
Prends pour acquis qu'il est fini.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.